Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous le verrez cet après-midi, les animaux ne sont pas bêtes à manger du foin. Depuis un quart de siècle, la science apporte la preuve constante que les animaux sont doués d'émotions complexes, capables de penser, d'empathie, d'avoir une conscience de soi et même de ressentir une forme de sens de la justice. Nous autres humains sommes de plus en plus nombreux à considérer l'animal comme le sujet de sa propre vie et non plus comme un simple objet dont nous serions maîtres et possesseurs. Assiste-t-on à un changement de paradigme dans notre rapport à l'animal, d'un point de vue philosophique, juridique, scientifique? Nous nous glisserons notamment dans la tête des chiens et des chats pour mieux appréhender l'intelligence animale. Mes complices cet après-midi, Éric Libiot et Marie-Laure Sunshine. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Claude Beata.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes psychiatre vétérinaire. Vous avez notamment publié en poche chez Odile Jacob « Au risque d'aimer, des origines animales, de l'attachement aux amours humaines ». Et vous avez signé un excellent papier dans Cerveau et Psycho, dans le dossier « À quoi pensent nos animaux ». Bonjour Jessica Serrin.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en éthologie, spécialiste de la cognition animale. Vous intervenez régulièrement auprès d'organismes de recherche comme le CNRS et l'INRA. Et vous venez de publier un ouvrage passionnant chez Humaine Science dans la tête d'un chat. Bonjour Joëlle Proust, bienvenue, vous êtes en ligne avec nous.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, chercheuse à l'Institut Jean Nicot, et vous avez notamment publié chez Gallimard « Comment l'esprit vient aux animaux ». Alors Claude Beata, vous le rappelez, depuis 25 ans, la recherche scientifique sur les animaux a révolutionné ce que nous savons sur leurs pensées et leurs émotions. Nous changeons de paradigme, nous ne considérons plus l'animal comme un bien meuble, un objet, mais désormais comme le sujet pensant de sa propre vie.
Oui, bien sûr, il y a à la fois un changement de paradigme, à la fois juridique, avec l'introduction depuis 2015 de cette notion d'être sensible pour tous les animaux, et évidemment, du coup, un changement aussi du regard scientifique. Et en fait, quand la science ne s'intéresse pas à un objet, quand par exemple, pendant très longtemps, on a nié les émotions des animaux, dans la ligne de Descartes, si on peut dire, en disant bon, il y a pas d'émotion, donc c'est pas la peine de les étudier, eh bien on ne les voit pas. En revanche, dès qu'on commence à s'y intéresser, elles émergent, on se rend compte de leur complexité, à la fois donc de la complexité des émotions, mais aussi de la capacité cognitive, et donc au bout d'un moment émerge la notion claire d'une conscience animale.
Jessica Serra, certains ont encore du mal à admettre que l'animal soit doté d'émotions complexes, de cognition, d'une représentation du monde et même d'une conscience.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore sceptiques, qui n'ont pas la connaissance en fait des expériences scientifiques qui ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi l'objet de mon ouvrage, c'est vulgariser la science pour la rendre accessible au grand public, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus nier l'existence de ces émotions complexe, comme le souligne Claude, et que vraiment on a des centaines, voire des milliers d'expériences qui viennent souligner à la fois l'intelligence animale, leur capacité cognitive et l'existence d'émotions complexes. On n'est plus au stade de simples émotions, mais on a vraiment des émotions qu'on appelle complexes, mais du type empathie ou attachement qui existent réellement chez l'animal. Et donc au regard de ces nouvelles découvertes, il faut vraiment s'interroger aussi sur le traitement des animaux tel qu'il est aujourd'hui, et pas seulement celui de nos animaux de compagnie évidemment, mais celui de tous les mammifères, voire de tous les autres animaux, parce que c'est une vraie question de société aujourd'hui.
Joëlle Proust.
Oui, alors il y a une recherche très intéressante pour l'intelligence animale qui concerne aussi l'intelligence humaine, c'est-à-dire le rôle de l'émotion dans le raisonnement. On s'est rendu compte que les animaux arrivent à prévoir leur activité cognitive par des émotions, comme les humains. Évidemment, tant qu'on a cru que les animaux devaient posséder des concepts dans un langage extérieur pour pouvoir penser, on ne pouvait pas leur prêter la moindre capacité prédictive. Or, les travaux en laboratoire montrent qu'ils les ont, ces capacités prédictives. Ils peuvent se souvenir, ils peuvent savoir qu'ils se souviennent ou ne pas le savoir, et du coup orienter leurs décisions en fonction de ce qu'ils pressentent pouvoir faire correctement. Et cela donc dans le domaine de la mémoire, dans le domaine de la catégorisation perceptive. Exactement comme les humains.
Alors, je soumets à votre sagacité cette question de Brigitte, hein, que Brigitte vient de nous envoyer sur notre page Facebook. Je défends la condition animale et pour vivre avec deux chats, je suis témoin de leur intelligence, de leur faculté à communiquer et à poser des intentions et des actes, mais ils n'ont pas de langage articulé qui permet de penser. Alors, y a-t-il pensée sans langage? Question assez vertigineuse, Joël Proust.
Bien oui, je pense qu'en effet, il y a une pensée sans langage et c'est ce que nous découvrons de plus en plus concrètement dans des décisions que prennent les animaux et qui sont rationnelles, c'est-à-dire qui correspondent à un optimum étant donné ce qu'ils savent ou ne savent pas et étant donné leurs besoins en termes de nourriture, de reproduction, etc. Donc ils ont la capacité d'intégrer deux types d'émotions, des émotions concernant la probabilité de savoir et des émotions concernant la probabilité d'avoir une récompense importante pour eux.
Claude Beata, peut-il y avoir une pensée sans langage verbal ?
Vous savez, c'est toujours amusant cette question parce que Elisabeth de Fontenay le disait très bien. Elle disait « Chercher le propre de l'homme revient le plus souvent à exclure une partie de l'humanité ». Parce que s'il n'y a pas de pensée sans langage, alors qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne peuvent pas parler, de l'enfant préverbal? Vous voyez, donc c'est en fait, on va se poser la question aussi sur beaucoup d'humains. Et bien sûr qu'il y a une pensée sans langage, qu'il y a la conception, les expériences par exemple sur l'injustice montrent bien que non seulement il y a de l'émotion, mais il y a une représentation hein, du monde dans l'animal, pour l'animal. Les propriétaires qui vivent, et je crois que la science doit être modeste, parce qu'actuellement effectivement il y a des recherches autour de ça. Mais pendant des décennies, les propriétaires de chiens, les personnes qui vivaient avec les animaux, les paysans, les gens qui vivaient au contact quotidien avec les animaux, ils ne doutaient pas de la capacité d'émotion, voire de la capacité de représentation. Je me souviens de mon père me racontant à quel point ma grand-mère devait faire attention parce que la chèvre volait toujours les plus belles pêches et qu'elle arrivait toujours à tromper ma grand-mère en faisant semblant de ne pas voir la pêche qui était sur le pêcher. Au dernier moment, elle se retournait, elle la prenait. Vous voyez, je veux dire, il y a une stratégie là-dedans et évidemment, c'est de l'anecdote. Mais je cite souvent Bekov qui dit le pluriel d'anecdote, c'est donné. Il y a un moment, les propriétaires, les gens qui vivaient au quotidien, ils le savaient qu'il y avait ça. Après, il fallait le prouver. Maintenant, la science en empare et enfin, on va pouvoir progresser ensemble.
Jessica Serra.
Oui, je rajouterais par rapport aux propos de Claude qui sont très justes, que effectivement, la familiarisation qu'on a avec notre animal, la familiarité, c'est-à-dire est-ce qu'on a vécu avec l'animal ou pas, de ça va dépendre notre empathie envers les animaux. On sait aujourd'hui que justement, les animaux d'élevage, on ne vit plus avec eux au quotidien. Je parle de la majorité des gens, hein, pas des paysans, etc. Mais la majorité des gens vont avoir des animaux de compagnie, mais ils n'ont pas forcément de chèvres, de vaches, de moutons. Et donc les positionnent dans une espèce de masse diffuse où finalement on ne veut plus rien savoir de ces animaux-là. On ne veut plus rien savoir parce qu'on ne vit plus avec eux. Et cette absence de vie commune, en fait, finalement, on a démontré scientifiquement que le fait de ne pas vivre à proximité immédiate d'un animal, on va perdre, si vous voulez, notre capacité à détecter déjà des émotions chez ces animaux. Et qu'en plus, comme ces animaux sont dits consommables et sont destinés in fine à être mangés pour leur chair, eh bien, ça nous arrange bien quelque part de ne pas nous poser ces questions-là.
Claude Beata, est-ce que des expériences montrent que les animaux peuvent faire preuve d'empathie ? Je pense par exemple à cette expérience de 2011 menée par Inbal, Benami, Bartal et ses collègues de l'Université de Chicago sur les rats, justement. Racontez-nous.
Oui. Alors, en fait, il y a des rats dans une... Il y a eu beaucoup d'expériences sur l'empathie avec les rats. Il y en a des anciennes qu'on pourrait pas refaire parce qu'éthiquement, elles n'étaient pas acceptables. Mais on voyait des rats qui se débrouillaient pour détacher un rat qui était accroché. Hein, donc, à partir du moment où ça ne les mettait pas en danger eux-mêmes. Mais là, dans ces expériences beaucoup plus sympathiques, en fait, il y a un rat qui est emprisonné et puis il y a une friandise qui est accessible. Et en fait, on va voir que la majorité des rats vont d'abord libérer le rat prisonnier et partager ensuite la friandise. Donc vraiment une représentation du monde de l'autre qui est enfermé et qu'il faut libérer, avec en plus le fait du coup d'aller vers un sens du partage.
On parle des rats, Jessica Serra, est-ce que les chats font preuve d'empathie ?
Alors, on sait que le comportement maternel notamment, c'est la preuve, j'allais dire, la plus symbolique de l'empathie chez les mammifères. Une mère est attachée à ses petits, et lorsque par exemple un chaton est prélevé du nid, qu'il émet des vocalisations, la mère va tout de suite se mettre à aller chercher son chaton. Mais au-delà de ça, les chercheurs sont vraiment demandés, finalement, cette histoire du chat et de l'homme, est-ce que le chat ne pourrait pas aussi éprouver de l'empathie envers l'être humain? Donc ils ont mené une recherche d'envergure. Le propriétaire présente plusieurs états émotionnels, donc soit une mine très joyeuse, amicale, et à l'inverse une mine colérique, et ils analysent les comportements de leur chat vis-à-vis de ses propriétaires aux émotions très contrastées. Et ce qu'ils ont montré, c'est que effectivement le chat va très bien détecter les émotions de son maître et va ajuster ses comportements, puisque lorsque le maître va avoir un visage amical ou lorsqu'il va parler de manière joviale, le chat va tout de suite s'approcher, solliciter l'interaction. En revanche, devant une mine colérique, il va se carapater et ne pas s'approcher de son maître. Et ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, c'est que lorsqu'il présente un individu qui est étranger pour l'animal, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'interaction entre ce chat, enfin le chat ne connaît pas l'être humain qui va exprimer les différents états émotionnels, là par contre, le chat ne va pas réagir à aucune des émotions de cet être qu'il ne connaît pas. Alors les chercheurs sur cette expérience n'ont pas conclu à l'existence d'une empathie, parce que nous autres éthologues, on est toujours très prudents dans l'interprétation de nos expériences, et puis on met parfois du temps à oser utiliser certains termes parce qu'encore une fois, comme le soulignait Claude tout à l'heure, il y a 25 ans, il y a 30 ans, on n'osait pas parler d'intelligence, on n'osait pas parler d'émotions. Et au fur et à mesure, le langage qu'on utilisait pour l'être humain, on l'a démocratisé aux animaux.
Rappelez ce qu'est un éthologue.
Alors un éthologue, c'est un chercheur avant tout en éthologie. Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Donc en gros, notre métier, ça se résume à faire des expériences scientifiques. Donc on va se poser une question, par exemple, est-ce que l'empathie existe chez les animaux? Est-ce que l'empathie existe chez le rat? Et puis on va mener cette fameuse expérience qu'on a citée tout à l'heure sur enfermer un rat dans une cage. Alors moi, je ne mène pas ce type d'expérience-là exactement, parce qu'il y a des expériences qui se justifient plus ou moins d'un point de vue éthique. Mais on va pouvoir travailler comme ça sur tout un tas d'animaux pour vraiment investiguer un champ de recherche phénoménal, parce qu'on peut à la fois s'intéresser à la cognition animale, mais également aux émotions. Donc voilà, les éthologues mènent des recherches extrêmement variées et sur des espèces animales très très différentes aussi.
Question de Marie-Laure Sunshine.
Oui, vous disiez à l'instant que les animaux, vous parliez des chats par exemple, vont ressentir finalement l'état émotionnel de son maître, mais est-ce que l'inverse marche aussi? Autrement dit, qu'apprennent, que retiennent, quel épanouissement va permettre de nourrir, va changer le caractère des propriétaires d'animaux, notamment des chats, au contact justement de leur matou préféré?
Alors sur l'expérience dont j'ai parlé, c'est pour ça que je vous ai dit que les chercheurs n'ont pas conclu à l'existence de l'empathie, parce que ça pourrait être du pur conditionnement associatif, c'est-à-dire que le chat pourrait reconnaître certains états émotionnels et ajuster son comportement en se disant là mon maître est plutôt sympathique, je peux m'en approcher, là il est moins sympa, je vais choisir un autre moment pour m'approcher de lui. Néanmoins, on peut quand même opter pour cette hypothèse de l'empathie entre le chat et l'homme. À l'inverse, on sait par exemple que l'homme est pas très bon parfois pour décoder notamment tout ce qui est corporel chez son animal, donc là il y a encore du travail à faire par l'être humain, mais on a quand même des expériences où on a montré que par rapport notamment au miaulement, l'homme est capable d'inférer l'état mental de son chat juste en écoutant ses miaulements. Il est donc capable de se dire là je sais que mon chat est dans un contexte positif juste en écoutant ses miaulements, sans voir le chat, ou il est dans un contexte négatif. Il y a aussi un caractère d'urgence parfois dans les miaulements, donc les choses sont très très bien faites, à tel point que l'être humain va réagir de manière quasi immédiate en entendant un certain type de miaulement. Donc voilà, on a quand même un mode de communication entre le chat et l'homme qui fait que l'homme reste vraiment réceptif aux attentes de son chat.
Claude Beata.
Oui, sur l'empathie, plusieurs points. Premièrement, les études de l'équipe de Hantid chez Miklosi, qui a montré, ils ont une des rares équipes à avoir appris à des chiens à passer des IRM fonctionnels, c'est-à-dire à rester réveillé dans un scanner qui fait 92 décibels, donc c'est déjà une belle performance, et du coup de pouvoir voir, d'avoir une espèce de visualisation de l'état mental in vivo. Et donc ils ont montré que chez l'humain, comme chez le chien, il y avait une zone qui était dédiée à la compréhension des vocalisations de sa propre espèce, mais aussi une zone dédiée à la vocalisation de l'autre espèce, donc du chien pour l'homme et de l'homme pour le chien, et un décodage émotionnel de ces vocalisations dans l'hémisphère droit, donc plutôt l'hémisphère émotionnel, à la fois chez le chien et chez l'humain. Donc là, on commence à avoir des images de la capacité d'empathie, puisque le chien va décoder la balance émotionnelle de ce qui est dit. Ça peut aussi lui permettre de, effectivement, de se mettre à l'abri si ce qui est dit, c'est de la colère, mais aussi de pouvoir être solidaire quand c'est le cas. Et le deuxième point, c'est sur la science. Quand la difficulté à employer des mots, je me souviens d'un article d'une jeune primatologue qui décrivait un jeune chimpanzé qui était venu au secours d'une femelle qui avait été mordue par des chiens de brousse et qui avait du mal à porter son petit. Et donc, pendant 8 jours, les scientifiques ont vu ce jeune mâle qui n'était pas encore sexuellement actif, donc qui ne cherchait pas les faveurs de la femelle, la décharger du poids du petit, lui permettre de marcher avec la troupe qui avance un peu tous les jours, en lui portant le petit. Au bout de 8 jours, quand elle l'avait cicatrisé, il lui a rendu le petit. Il avait juste aidé, de solidarité de groupe, avec la reconnaissance de son état blessé et de fatigue. Mmh. Et les chercheurs, c'était amusant parce que la chercheuse disait « ça pourrait ressembler à de l'empathie, ça pourrait être, on pourrait dire, empathie-like ». Mais on n'a pas le droit de le dire, et c'était étonnant.
Clara Marliot-Magui, Julien Macarès et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. Interpréter The Love Cats.
Albert, qu'est-ce que c'est ça ?
Grand bien vous fasse.
Le petit bout de mousse là, à côté du fauteuil. Et la mousse, et le fauteuil. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Sur France Inter.
Que se passe-t-il dans la tête des animaux? C'est notre thème cet après-midi avec l'éthologue Jessica Serra, le vétérinaire Claude Beata et avec la philosophe Joëlle Proust. Jessica Serra, je rappelle que vous venez de publier Dans la tête d'un chat. Alors, on l'a dit, hein, les chiens, chats, rats, cochons, hamsters, vaches ressentent des émotions primaires, hein, comme la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la peur ou la colère. Mais est-ce que les animaux ont conscience de ressentir ces émotions?
Alors le problème de la conscience par rapport au ressenti des émotions, c'est qu'en fait, si vous voulez, nous en tant qu'éthologues, on a regardé les émotions sous deux composantes. Et ça a été un grand challenge pour nous parce qu'au départ, investiguer les émotions, c'est quelque chose extrêmement nouveau. Il fallait pouvoir objectiver ces émotions pour être sûr qu'elles existent. Et pour les objectiver, on avait tout un tas de variables physiologiques, par exemple la rythmicité cardiaque. On sait aussi qu'on a des variations corporelles, enfin une gestuelle qu'on peut analyser, notamment la position des oreilles. Enfin voilà, on a tout un tas de paramètres qu'on peut quantifier et à partir de là, on peut évaluer si l'animal est en train de ressentir de la peur suivant la situation, etc. Donc ça, on sait très bien le faire. C'est notre travail de chercheur et on sait objectiver l'émotion. Mais l'émotion, elle peut être découpée en deux parties. Il y a aussi une composante plus subjective qui est véritablement ce qu'on appelle le ressenti. Et là, on touche à quelque chose d'assez impalpable qui finalement est compliqué à objectiver. Mais comme je le souligne dans mon livre, en termes de ressenti, enfin l'hypothèse que moi je mets là-dessus, c'est que finalement il n'y aurait pas tant une différence de nature dans le ressenti entre les émotions chez l'animal et les émotions chez l'humain. Parce qu'on a montré que notamment les aires cérébrales qui sont impliquées dans le traitement des émotions, c'est ce qu'on appelle le système limbique, c'est quelque chose qui a finalement été très peu modifié par l'évolution. C'est-à-dire que tous les animaux ont à peu près un système, on va dire, très similaire pour gérer les émotions et donc qu'ils ressentiraient probablement les émotions, en tout cas de la même manière que nous. La manière ensuite de les traiter, ça c'est une autre question. D'un point de vue cognitif, hein, je parle.
Joëlle Proust, je rappelle que vous êtes philosophe et directrice de recherche au CNRS.
Oui, je confirme tout à fait ce que dit Jessica. Les philosophes qui s'intéressent à la conscience animale s'appuient sur des travaux montrant que l'évolution de l'émotion elle-même suppose qu'à un certain moment, l'homéostasie, qui est la fonction de l'émotion, c'est-à-dire rétablir un bon équilibre fonctionnel, l'homéostasie est favorisée par la conscience de l'émotion, et donc très, très tôt dans l'évolution, en fait, les émotions sont devenues conscientes. Donc ça, c'est une idée qui est scientifiquement en ce moment en train d'être discutée et qui gagne de plus en plus de chercheurs. Bon, par exemple, Panksepp est un partisan de cette conception. Sur le plan de la subjectivité, dont vient de parler Jessica aussi, nous avons maintenant l'espoir de prouver que la subjectivité est quelque chose qui est présent aussi chez les mammifères, parce que, en fait, comme l'a montré ma collègue Catherine Talon-Baudry, le sentiment de subjectivité est lié en fait à un traitement d'information du cœur. Mmh. Donc le cœur les viscères jouent un rôle dans le sentiment de subjectivité. Donc le sentiment d'être soi, c'est quelque chose qui est partagé avec les autres animaux et cela depuis longtemps dans la phylogénèse. Donc ça, ce sont des nouvelles de nouvelles hypothèses, bien sûr, qui restent largement encore à confirmer, mais qui nous font espérer que la notion de continuité de la cognition et de sa variable émotionnelle, parce que l'émotion fait partie de la cognition, cette continuité est vraiment très solidement présente dans l'organisation générale du cerveau et du cœur.
Claude Beata, je rappelle que vous êtes vétérinaire comportementaliste en duplex de France Bleu à Aix-en-Provence.
Oui, et aussi le fait que, par exemple, l'animal peut anticiper des émotions négatives. Comme vétérinaire psychiatre, on a souvent à traiter ces animaux phobiques, par exemple, ces animaux qui ont une peur absolue d'aller dans la rue parce qu'ils n'y sont pas habitués. Et on va aller voir, les propriétaires vont nous décrire un animal qui anticipe, qui, quand il voit la laisse, refuse d'aller se cacher. Donc pour avoir cette anticipation, il faut bien avoir une notion de que l'émotion qui va surgir va être une émotion négative.
Alors Célia, sur notre page Facebook, nous délivre une réflexion assez drôle. La pensée animale non verbale serait-elle mimétique ? J'ai eu un chat qui s'est employé après observation à s'asseoir sur la cuvette des WC un peu plus, et on le trouvait en train de lire le journal en même temps. Jessica Serra.
Alors, on sait que l'apprentissage par imitation, évidemment, existe chez les animaux, et c'est un type d'apprentissage qui est très très utilisé d'ailleurs. Hein. Les animaux apprennent beaucoup en imitant leurs congénères. Néanmoins, dans le cas précis de l'auditrice qui nous apporte ce témoignage assez rigolo, mais qui existe, hein. Il y a beaucoup de chats qui arrivent à uriner dans les toilettes de leur propriétaire.
Ça me rappelle une scène du film Mon beau-père et moi, avec Ben Stiller et Robert De Niro. Il y a une scène où on voit le chat qui...
Alors, on ne sait pas trop, parce que moi, j'ai pas d'études scientifiques sur le sujet à proprement parler, mais soit il procéderait par imitation, soit simplement, il y a aussi ce que le chat est un animal qui vit aussi dans un univers d'odeurs. Donc, on peut supposer que les odeurs laissées par son propriétaire lui laissent supposer à lui que c'est ici qu'on peut aussi uriner. Voilà.
Alors, Claude Beata, dans le numéro de Cerveau et Psycho de janvier dernier, vous vous demandez si les chiens ou les chats peuvent avoir le sens de l'équité ou de l'injustice. Alors, a priori, ça paraît assez improbable. Et vous vous appuyez sur les études de l'éthologue allemande Friedrich et ses collègues de l'université de Vienne.
Oui, c'est Frédéric Arang qui a fait cette première expérience, cette jolie manipulation. Un ordre extrêmement simple, assis, donc des chiens qui sont habitués à ça le font, et le font sans avoir besoin d'être récompensés. On peut imaginer que un chien qui sait le faire, on peut lui demander 20 fois de suite « donne la patte » ou « assieds-toi », il va le faire. Et là, c'était « donne la patte ». Et là, juste, elle introduit une variable, c'est que on dit « donne la patte » à deux chiens, mais il y en a un qui est systématiquement récompensé, pendant que l'autre n'est pas récompensé. Et alors que ce comportement pourrait être refait plein de fois, on le voit en quelques fois, c'est spectaculaire, en 7-8 fois, le chien regarde l'autre qui est récompensé alors que lui ne l'est pas, et il va arrêter son comportement. On avait refait cette expérience pour l'émission Le Monde de Jamy, en se demandant si ça allait marcher, parce que c'est quand même, on n'était pas dans des conditions expérimentales strictes, ça a marché de façon aussi spectaculaire. Et chez le singe, c'est encore plus fort, puisque là, la qualité de la récompense intervient. Chez le chien, c'est vraiment être récompensé, ne pas être récompensé. Chez le singe, quand on donne une récompense de très haute valeur, comme par exemple du jus d'orange à un des deux, alors qu'on donne des brocolis à l'autre, eh ben, il n'est pas rare qu'en deux ou trois fois, le singe qui reçoit les brocolis les jette sur l'expérimentateur.
Et les chats, Jessica Serra ?
Alors oui, l'équipe dont Claude parlait, c'est une équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans, donc le sens de l'équité, c'est quelque chose que je connais bien chez le chien, effectivement, qui est assez facile à démontrer d'un point de vue scientifique, tant le chien a ce sens de l'équité, et par observation va se sentir rapidement frustré. Et d'ailleurs, ces chiens-là qui observent leurs congénères obtenir une friandise et qui n'en ont pas, vont arrêter donc de tendre la patte, effectivement. Mais si ils n'ont plus l'occasion d'observer cette scène qui est injuste, en fait, là, ils vont continuer à donner la patte à leur propriétaire sans forcément avoir la récompense alimentaire. Donc c'est dire que c'est vraiment un sens de l'injustice qui existe chez cet animal. Chez le chat, malheureusement, on n'a pas d'études scientifiques à ce jour. Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai commencé mes travaux sur le chat, étonnamment d'ailleurs, parce que aujourd'hui c'est l'animal de compagnie préféré à travers le monde, la littérature scientifique était extrêmement pauvre chez le chat par rapport au chien. On avait beaucoup plus de recherches scientifiques qui avaient été menées sur le chien que sur le chat. Pourquoi ? Parce que les éthologues répondaient de manière assez unanime. Non, mais moi je veux pas travailler avec le chat. C'est un animal qui est pas du tout coopératif dans les tests qu'on lui propose. Et probablement parce qu'effectivement, le chien ayant été sélectionné pour ses facultés d'attention et de coopération par rapport au chat, qui est un animal qui est plus indépendant. En effet, pour avoir travaillé avec le chat, c'est un animal un peu moins coopératif et c'est plus compliqué, voilà, de mener des recherches comportementales sur le chat que sur le chien.
On va demander aux équipes de recherche de Frédéric Rang de se pencher sur le cas du chat.
Maintenant, on a chat et chien, voilà. Moi, ma femme prétend que le chat est plus fier, plus intelligent, plus... Moi, je ne suis pas de cet avis. Enfin, j'appelle le chat, il ne vient pas. Le chien vient, c'est moins con. Alors, on dit que c'est parce que le chat est fier et qu'il n'a pas à venir. Enfin, bon, hein, je veux bien. Depuis que je suis avec ce chien, je suis stupéfait par l'intelligence. Si on va en auto, je lui dis, il veut rester devant avec moi. Je lui dis, derrière, hop, il passe derrière. C'est un mot que je ne lui ai jamais appris. Je lui dis, va sur la commode. Je ne lui ai jamais appris, va sur la commode. Il va sous la commode. Il comprend des mots. C'est une chose qui me donne à réfléchir.
Vous avez bien sûr reconnu la voix du comédien Michel Galabru. Claude Beata, que nous dit la recherche scientifique sur les capacités de compréhension de notre langage humain? Par exemple, les chiens peuvent donc retenir très rapidement des centaines de mots et les catégoriser?
Alors sans doute pas tous les chiens, mais plusieurs chiens très célèbres maintenant, Rico, Chaser, ont montré la capacité d'apprendre jusqu'à 300 mots pour Rico, plus de 1000 mots pour Chaser, et non seulement d'apprendre des mots et donc de pouvoir leur donner des catégories, ça a été montré en leur demandant d'aller chercher un objet dont ils connaissaient pas le nom. Et on l'envoyait dans une pièce où il y avait des objets dont ils connaissaient le nom et un seul dont ils ne connaissaient pas le nom. Et quand il connaissait pas le nom, il revient avec l'objet inconnu et il associe ensuite ce nom-là à cet objet-là. Donc vraiment, c'est des capacités qu'on ne pensait pas exister chez le chien. Et chez Chaser, il a été aussi montré qu'il était capable de comprendre des phrases compliquées. L'exemple, c'était, on lui disait par exemple, touche la balle avec ton nez et va chercher la corde. Et après, touche la corde et va chercher la balle. Donc, il y a toujours les mêmes mots. Donc, si le chien ne comprenait que les mots et pas la syntaxe, il ferait les mêmes gestes, alors que là, il articule son action de façon à correspondre, de répondre à l'ordre donné.
Et les chats, Jessica Serrin?
Alors, les chats, par exemple, typiquement, savent reconnaître leur prénom. On a une étude scientifique qui le prouve. Mais quand il s'agit de les appeler, alors certains vont répondre, mais pas tous. Et j'aime bien citer cette phrase d'une chercheuse britannique qui dit... Les chiens viennent quand on les appelle, les chats prennent le message et vous rappellent plus tard. Parce que je trouve qu'elle illustre très très bien ce phénomène, c'est-à-dire que le chat est capable de comprendre son prénom, le chat vous entend quand vous parlez, mais en revanche, il n'entrevoit pas la nécessité de vous répondre tout de suite. Au regard aussi de leur histoire évolutive, ce sont deux animaux qui sont très très différents. Le chien, encore une fois, a été domestiqué pour ses facultés d'attention, de coopération directe. Le chat, lui, n'a pas été domestiqué pour répondre à des ordres directement.
Joël Proust, une question qui risque de provoquer une bataille homérique entre nos auditeurs. Les chats sont-ils plus intelligents que les chiens et inversement?
Écoutez, je vais bien me garder de participer à ce débat.
Vous avez bien raison.
Je ne suis pas qualifiée du tout pour le faire. Et je dois ajouter aussi que nous n'avons pas beaucoup de données, sinon aucune, concernant la métacognition du chat, alors que nous savons un peu mieux ce qu'il en est de la métacognition du chien, en particulier à travers l'exemple qui vient d'être donné, que le chien sache reconnaître quel est l'objet qu'il ne connaît pas et lui attribuer le nom qu'il ne connaît pas non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose de métacognitif qui traduit vraiment une très grande sensibilité à son incertitude concernant un résultat cognitif.
Éric Libio me regarde avec un air un peu effrayé. C'est quoi métacognition? Il essaie de comprendre.
La métacognition, c'est l'exploitation de sentiments d'incertitude pour optimiser cognition. Par exemple, on vous pose une question. Quelle est la capitale de l'Australie? Vous allez savoir plus ou moins rapidement si vous savez la réponse. Même si la réponse ne vous vient pas, vous savez très très vite dire que vous la connaissez, la réponse, ou que vous ne la connaissez pas. Donc il y a un aspect prédictif dans la réponse qu'on appelle la métacognition. C'est ce qui vous permet de consacrer de l'effort à l'activité, par exemple se rappeler quelle est la capitale de l'Australie, ou bien de rejeter complètement cet effort en disant que vous n'êtes pas capable de trouver la réponse.
Claude Beata, sur la bataille entre les partisans de l'intelligence des chats contre l'intelligence des chiens, qui gagne cette bataille?
Moi aussi j'avais une petite phrase, c'est les chiens ont des maîtres et les chats ont du personnel. Mais en fait, je crois que pour nos auditeurs, ce qui est important, c'est, et Jessica l'a souligné, c'est à quel point ces espèces sont différentes. Et notamment chez le chat, ce double statut de prédateur et de proie. Un chien, c'est avant tout un prédateur. Un chat, c'est un prédateur, mais c'est aussi une proie. Ça lui donne du coup un panorama de comportement beaucoup plus vaste finalement que celui du chien. Et une vulnérabilité particulière qui est la sensibilisation. C'est-à-dire, si un chat, il a peur de quelque chose, vous aurez beaucoup de mal ensuite à lui faire oublier. Les vétérinaires sont bien placés pour savoir ça. Ce qu'on appelle la sensibilisation qui conduit à l'état phobique. Et donc les chats, il faut faire très attention à ça. Donc dans ces différences-là que l'on voit entre le chien et le chat, il ne faut jamais oublier que le chat, au départ, n'étant pas une espèce obligatoirement sociale, en fait, il ne va faire des choses avec ses partenaires humains, etc., que si elles sont réellement favorables et qu'il peut les analyser comme non dangereuses et favorables. Alors que le chien, par solidarité sociale, il va faire des choses très différentes.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre ours grognon préféré, Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Chose vue.
Il n'est toujours pas psychothérapeute, Éric Libiot. Mais on l'aime quand même.
Ben oui, mais moi aussi je vous aime, Ali. Et depuis maintenant 4 ans, j'ai le plaisir de chroniquer à ce micro à vos côtés et vous m'avez tout fait. Une émission sur la cuisine zen, une autre sur la méditation en milieu horticole, une autre sur le zen et le bricolage, une autre sur la méditation et le chocolat. À peu près tout ce qui touche à la zénitude et à la méditation, au bien-être ou ne pas bien-être. Oui, vous m'avez tout fait, mais franchement, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à chat. Car vous le savez, Ali, le chat et moi, nous vivons une grande histoire d'amour, éloignés l'un de l'autre. Et ça va continuer ainsi pendant des années, comme ça les vaches seront très bien gardées. Mais que les chats ne s'en offusquent pas, c'est la même chose avec tous les animaux. Aucun mépris, aucune indifférence. D'ailleurs, je les sais beaucoup plus heureux sans moi. Cela dit, maintenant que je sais que le chat aime le rock, hein, je l'ai lu dans votre livre, Jessica Chazara, je vais peut-être changer d'avis, à défaut de changer de vie. Alors oui, que se passe-t-il dans la tête d'un chat? Vous y répondez, Jessica Serra. Et apparemment, il se passe plein de trucs dans leur tête. C'est un vrai chantier, d'ailleurs. Le chat fait des maths, éprouve du dégoût et des couleurs. Il rêve, il organise le monde, il comprend nos moindres faits et gestes. Franchement, c'est même assez flippant de se sentir totalement à poil face à un chat. Je finis par croire qu'entre Blofeld, le méchant de la série James Bond, et son chat, c'est le chat qui espère régner sur le monde. Mais si vous le permettez, je voudrais ici rendre hommage à Terry Jones, membre des Monty Python, et à son monde absurde sans queue ni tête de chat, sans même savoir ce qui se passe dans la tête d'un python. Et peut-être vous inciter, Jessica Serra, à écrire un second tome pour répondre à toutes ces questions. Que se passe-t-il dans la tête d'un chat qui se fait appeler un chat un chat? Et que se passe-t-il dans la tête d'un chat qui a un chat dans la gorge? D'ailleurs, avoir un chat dans la gorge peut-il soigner ma toux?
Oh là là.
Et que se passe-t-il dans la tête d'un chat qui n'est pas là quand les souris dansent? Enfin, que se passe-t-il dans la tête du chat d'une aiguille qui veut en découdre? Oui, je sais, c'est vertigineux. Et puisque le chat est un animal de fiction et de friction, que se passe-t-il dans la tête du chat de Simenon qui observe un couple se déchirer et qui va être victime de leur haine réciproque? Également, que se passe-t-il dans la tête du chat de Chemside, de Lewis Carroll, qui apparaît et disparaît à Alice au Pays des Merveilles, et quand il disparaît, ce qui reste au final d'ailleurs, c'est son sourire. Que se passe-t-il dans la tête d'un chat qui sourit? Autant de questions dont je ne donnerai pas la réponse, même si je ne compte pas donner ma langue au chat, maintenant que je sais que tout ce qu'il pourrait faire avec ma langue, et notamment des croquettes. Alors je rappelle qu'il faut évidemment répondre à tous ces questionnements, et pas seulement à un seul, puisque si on fait l'un, on fait l'autre. Sachez tout de même que réfléchir à toutes ces questions est bénéfique pour tout le monde, car comme le dit Pierre Dac, autre maître de l'absurde, mieux vaut élever son esprit que des chats siamois.
Ne reste-t-il que les épines quand je suis dans tes bras? Pétales envolées, les racines du sol s'envolent parfois. Respirer au fond de l'eau. Dis.
Cahen et Yaël Naïm interprétaient Coquelicot.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Que se passe-t-il dans la tête des animaux? C'est notre thème cet après-midi avec l'éthologue Jessica Serra, le vétérinaire Claude Beata et avec la philosophe Joëlle Proust.
Je me demande ce qui se passe dans la tête des chats. Par exemple, j'ai acheté un panier à mon chat, un beau panier de haute qualité, et il dort dans l'évier.
C'est un chat, comment dire, qui est très particulier, il a son caractère, et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose.
Il est plutôt branché rongeur, mais de temps en temps, on a aussi des oiseaux.
Greffier. Viens là, mon pépé. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas bien, donc.
Et votre chat, comment vous l'appelez?
Gris-gris.
Gris-gris. C'est bien choisi pour un chat noir. Elle l'appelait
Noiro. Il m'a déjà griffé là, partout. Il est très cocasse.
À chaque fois qu'il fait une connerie, à la fois je le dispute, mais en même temps je le trouve trop mignon, alors je fais plein de bisous et il doit rien capter.
Pourquoi t'as volé mon petit bout de jambon?
Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien?
Quand il ne veut pas, il ne veut pas.
Le monde veut devenir un cat parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes.
Chalut, à demain, si on veut bien.
Oh, ouais.
Medley signé Stéphanie Texier. Jessica Serra, est-ce que les chats détiennent une conscience de soi? Alors, si on s'appuie par exemple sur l'exemple du test du miroir développé en 1970 par le psychologue américain Gordon Gallup, qu'est-ce que ça nous dit cette étude?
Alors le test du miroir, il postule que comme l'homme est capable de reconnaître son propre reflet dans un miroir, c'est qu'il a une individualité, c'est qu'il a une conscience de lui-même. Et donc ce test, on l'a adapté à plein d'espèces qu'on a testées, notamment les grands primates. On s'est rendu compte que, alors c'était un peu plus élaboré, c'est-à-dire qu'on posait une tache de peinture pendant l'anesthésie de l'animal, on le réveillait, et le primate, on le positionnait face au miroir, et là, tout à coup, finalement, il voyait la tache de peinture et il essayait de se l'enlever. Donc voilà comment ça fonctionnait, ce test du miroir chez les animaux. Et on a montré que cette conscience de soi existe chez les grands primates, chez les éléphants, plus récemment chez les raymontas, et même chez le cochon.
Chez les chats.
Chez les chats, malheureusement, les tests n'ont pas été concluants, en tout cas de la manière dont ils ont été réalisés. Alors le problème, c'est que même les éthologues, parfois, on oublie qu'il faut savoir adapter les tests qu'on propose à l'espèce que l'on considère. Parce qu'une espèce qui va reconnaître, par exemple, ses congénères d'abord sur des indices visuels, forcément, le test du miroir nous parle tout de suite, parce que finalement, il va voir son reflet, c'est peut-être plus facile pour lui d'apprivoiser ce reflet. Une espèce qui reconnaît ses congénères d'abord sur des critères olfactifs, on pourrait s'interroger sur la pertinence de ce test du miroir. Et d'autre part, même s'ils ont échoué, parce qu'on sait aussi qu'on a des tests qui sont du coup pas les plus pertinents suivant l'espèce qu'on considère, on a beaucoup de propriétaires qui rapportent qu'après une période de familiarisation au miroir, leur chat s'en fiche absolument, il ne va pas se mettre à attaquer son reflet, etc.
Claude Beata, est-ce que les chiens ont une conscience de soi?
Ouais, c'est la très jolie expérience de Bekoff, hein, qui, comme le disait Jessica, est un peu agacée de ce test du miroir qui, avec la vision du chien, en fait, est très très, très mal adapté. On n'est même pas sûr qu'il se voit bien. Il suffit de lancer un bâton à son chien, de le regarder, le chercher. On voit bien que ce qu'il va utiliser, c'est son nez. Et donc, Bekoff a utilisé le test de la neige jaune. Comme il vit au Canada, il s'était rendu compte que, bah, évidemment, quand les chiens urinent, ça fait des taches jaunes. Et il a postulé l'hypothèse suivante. Il a dit, si le chien a une conscience de soi, il va passer très peu de temps à explorer sa propre urine, puisque ça, il sait que c'est lui. Donc, c'est la conscience de soi, alors qu'il va passer beaucoup de temps à explorer l'urine des autres. Et donc, il a prélevé les morceaux de neige souillés, il les a mélangés pour pas que le chien puisse savoir où il avait fait. Et les tests sont très, très positifs, dans le sens où le chien, évidemment, dès qu'il sent sa propre urine, il se reconnaît, il reconnaît ses marqueurs, et il passe tout de suite aux autres individus. Donc oui, bien sûr, les chiens ont une conscience d'eux-mêmes.
Joël Proust?
Alors, excusez-moi, mais la notion de conscience de soi, elle recouvre tellement de choses qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. En effet, reconnaître son odeur, reconnaître une tache sur son corps, c'est une forme de conscience de soi, mais ça ne rejoint pas ce qu'on appelle ordinairement conscience de soi, c'est-à-dire avoir un soi qui est caractéristique de l'individu qu'on est, etc. Donc je crois que chez les bons humains, il y a, comme chez les humains, de très nombreuses capacités de reconnaissance de l'odeur, de marques sur le corps, de blessures qui sont affectées à soi, etc. Mais est-ce que cela veut dire qu'on a conscience de soi en tant qu'un individu ? Ça n'est pas encore démontré par ces expériences. Naturellement, ça n'exclut pas que les animaux en soient également capables. Mais je pense que les tests dont il s'agit ne le démontrent absolument pas.
Marie-Laure Sunshine, de Femmes Actuelles.
Oui, une question, Jessica Serras, sur l'expressivité des animaux. On a quand même l'impression, alors peut-être je vais partir avec Eric Libion en courant, on va se faire insulter, etc. On va avoir plein de messages. On a quand même l'impression que le chien est spontanément beaucoup plus sympathique. Il est plus expressif. On voit quelque chose dans le regard d'un chien, dans la façon dont il bouge. Le chat, c'est plutôt poker face, quand même. Hein.
Vous allez recevoir un nombre de mains.
Alors non, le chat a quand même des expressions faciales. Après, effectivement, on sait moins bien interpréter, le maître sait moins bien interpréter les expressions faciales de son chat que de son chien. Et effectivement, on pense qu'il y a quand même peut-être un panel d'expressions qui est probablement plus vaste chez le chien, parce qu'on a sélectionné le chien et qu'on a créé beaucoup plus de races aussi très rapidement. Et encore une fois, les facultés de coopération entre l'homme et l'animal sont basées sur l'attention entre l'homme et l'animal, et donc le chien et l'homme se regardent beaucoup. Chez le chat, on a quand même pas mal d'expressions faciales, quoi qu'on en dise. Mais encore une fois, la manière dont on les interprète, notamment la couverture de mon livre... C'est assez rigolo parce que j'ai mon attaché de presse qui a fait un petit sondage pour savoir comment les gens perçoivent ce visage de chat. Et j'ai eu plein de réactions différentes et aucune n'était la bonne en fait.
Moi je le trouve très sympathique, voilà. très avenant, un peu ironique même, je sais pas. Enfin, je me trompe peut-être.
Alors c'est ça, alors il y a des gens qui voient un sourire, il y a des gens qui voient de l'agressivité. En fait ce chat-là il est en train d'effectuer ce qu'on appelle une réaction de Flemen. Alors les gens ne savent pas forcément
expliquez-nous ce que c'est.
Voilà, en une minute, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quand l'animal est projeté dans un environnement nouveau avec des nouvelles odeurs. Tous les propriétaires ont déjà vu leur chat entrouvrir la bouche et inspirer par bouffées régulières. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire voler des composés olfactifs jusqu'à un second organe olfactif qu'il possède, qui est fascinant, qui s'appelle l'organe de Jacobson. Et cet organe, il va permettre de détecter majoritairement, puisqu'il détecte aussi d'autres choses, des phéromones. Donc voilà ce qu'est en train de faire votre chat, le chat de la couverture. Il est en train de capter des molécules olfactives dans un nouvel environnement.
Deux questions pour terminer, deux questions assez vertigineuses. Les animaux ont-ils conscience de la mort ? Et est-ce qu'ils sont dotés d'un sens de l'humour qui est un signe d'intelligence ? D'abord sur la mort, Claude Beata, que nous disent les dernières recherches scientifiques en la matière ?
Alors, sur le sens de la mort, il y a deux questions. Est-ce qu'ils ont le sens de leur propre mort, de leur finitude ? Et ça, on n'a pas la réponse. En revanche, on a beaucoup d'exemples maintenant d'observations, que ce soit avec les dauphins de la baie de Shark Bay en Australie, qui est suivi par la même équipe de scientifiques depuis 35 ans, ou que ce soit par les éléphants, d'une conscience de la mort de l'autre, et non seulement de sa mort au moment où ça se passe, ça c'est évident, mais après, avec ces scènes qui ont été montrées par Maccombe, d'éléphantes qui passent sur le lieu où la matriarche est morte et qui viennent entourer le crâne de la matriarche, dans des choses qui, si c'était des humains, on dirait, tiens, il reconnaît, il vient sur le lieu, sur la sépulture de l'ancêtre, et on n'a pas d'autre explication pour l'animal. Donc oui, une conscience de la mort de l'autre, la mort de soi, sa propre fin, ça c'est plus compliqué.
Et sur le sens de l'humour, Jessica Serra, qui est une forme d'intelligence, est-ce que par exemple les chats en sont dotés ?
Alors, je parlerai pas forcément d'humour, parce que souvent on a tendance, encore une fois, à utiliser des termes très humains pour décrire des émotions, qui peuvent s'expliquer parfois plus simplement. Mais l'amusement, la joie, la recherche du plaisir par le simple jeu, ça on sait que c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, longtemps on a pensé en éthologie que le jeu avait forcément une finalité, c'est-à-dire que le chat joue pour finalement s'exercer et s'exercer à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire exercer ses talents de prédateur. Or, on a montré que les animaux jouent aussi par simple quête du plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Donc, ils aiment jouer et le sens de l'humour, je dirais qu'effectivement, c'est une forme d'amusement. Maintenant, je ne parlerai pas forcément d'humour.
Merci à tous d'être venus cet après-midi. Merci Jessica Serra, Claude Beata et Joël Proust. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli France Inter. Demain, on s'intéresse à notre rapport au temps qui passe avec l'astrophysicien Carlo Rovelli.